Depuis le 15 novembre dernier, un nouveau soulèvement contre la vie chère et plus globalement contre le pouvoir traverse nombreuses villes et villages d'Iran. Avec Vérouz, nous allons revenir sur la situation de la population iranienne, sur l'ampleur de la répression. La violence de la répression qui s'abattue contre les manifestants dit long des craintes éprouvées par le régime face à ce soulèvement qui survient après 2 ans après les soulèvements de l'hiver 2017-2018, où, pour la première fois, le régime avait été mis en cause. Alors, bonjour Vérouz. Alors,
bonjour.
Comme au Liban, au Chili ou en Équateur, la récente révolte en Iran a débouté suite à l'annonce d'augmentation des prix du carburant. Alors, il y a plusieurs questions que je voudrais te poser. D'abord, cette augmentation a un impact sur la population. Tu peux nous parler de cet impact? Et cette annonce qui était surprise a été argumentée et pour dire de pouvoir aider les fonds d'aide aux plus nécessiteux et voir comment la population a réagi face à ça et comment va s'enclencher en quelques heures ces soulèvements.
Oui, d'abord, bonjour et merci de m'inviter de temps en temps pour parler d'Iran. C'est très, très important que les auditeurs de FPFF soient au courant de ce qui se passe en Iran, vu le rôle que l'Iran joue dans la région et l'importance de ce pays. Et comme tu l'as bien souligné, il faut d'abord placer, de point de vue de politique économique, cette mesure du gouvernement iranien dans la lignée de mesures purement néolibérales, comme ça a été fait en Argentine, au Équateur et ainsi de suite. On peut continuer la liste parce que depuis que le capitalisme a été mondialisé d'une manière néolibérale, partout le ciel c'est aussi sombre qu'ailleurs. Et en Iran, c'était une décision purement néolibérale dans la lignée de baisser le coût tout ce qui touche à la vie de nos concitoyens en Iran et le prix qu'il y avait pour le gouvernement. Mais il faut souligner plusieurs choses. La similitude avec les autres pays s'arrête là. Nous avons un régime non seulement capitaliste mais théocratique, avec un gouvernement qui n'a que le microphone dans la main. La décision ne sont pas prises par ni cabinet de M. Rouhani, qui est le président élu, ni par aucun membre de son gouvernement. Le vrai pouvoir, depuis l'avènement de la République islamique, a été toujours autour du guide suprême, et avec les pouvoirs énormes qui lui ont octroyé et d'ailleurs légalisé par la constitution de la République islamique d'Iran. Ça, c'est un point à souligner. Cette décision a été prise par ce centre de pouvoir, avec l'accord de M. Rouhani, avec l'accord de toutes les factions. Parce que, comme on sait, il y a une lutte de factions dans le couloir de pouvoir du régime islamique, avec une prépondérance et une domination presque absolue de guide suprême et les gens qui sont autour de lui. Et les décisions concernant la défense, la politique étrangère ou les grandes lignes économiques sont prises pas par ce gouvernement, mais par l'autre. Par contre, l'unanimité de toutes les factions qui ont accordé leur violon, qui ont apporté leur soutien à cette mesure ô combien impopulaire, a fait que toutes les factions ont été en face de cette révolte. Et c'est pour cela qu'on viendra dessus. Dans cette révolte, on a eu une continuation, tu l'as bien souligné, des événements il y a exactement 1 an et 10 mois, qui était vraiment la première, une révolte laïque et qui attaquait toutes les factions du gouvernement en même temps, qui était pour nous la fin de domination du discours réformateur d'État, discours de M. Khatami, M. Rafsanjani, M. Rouhani, et qui a vraiment dit « basta, stop, nous ne pouvons rien attendre des luttes de factions de ce gouvernement ». Ça, c'était il y a 1 an et 10 mois, et on était là, on a discuté de cet événement, et si tu te souviens, j'avais dit que c'est partie remise. Ça va repartir parce que ce gouvernement n'a aucune mesure, n'a aucune politique pour répondre à des demandes légitimes de population. Et c'est exactement la même chose maintenant. Ce qu'on a vu, c'est un régime théocratique, capitaliste, barbare, qui a utilisé, maintenant avec, déjà pour la première fois dans ces révoltes, et en Iran et ailleurs, on a eu une coupure totale d'Internet. C'est pour la première fois parce qu'il y a énormément de services sociaux en Iran qui passent par l'Internet. Et le gouvernement, sur ce point-là, il est très moderne. Il est très modernisé, les appareils d'État, l'appareil d'État islamique en Iran. Et il y a beaucoup de demandes que les gens ils doivent faire, des demandes administratives. Tout, c'est comme en France, on passe par l'Internet. Ça veut dire que cette coupure d'Internet, c'était quelque chose que personne n'attendait. Et c'est une première. Et c'est quelque chose que nous devons tenir compte. Parce qu'il y a beaucoup de militants qui utilisent l'Internet pour se mobiliser, pour s'organiser. Il faut qu'ils sachent que maintenant, on peut couper l'Internet dans sa totalité et couper complètement les communications qui passent par Internet. Et ça, c'est un facteur à tenir compte. Ça, c'est une chose. Deuxième, ils ont utilisé la répression extrême dès le départ. Maintenant que l'Internet est petit à petit remis, nous avons des vidéos, des films qui arrivent, qui montrent d'une atrocité incroyable. Ils ont utilisé dans Marchar. Marchar, c'est un point névralgique de l'Iran. Marchar, c'est au sud de l'Iran, à côté des complexes énorme de pétrochimie, avec une pauvreté extrême de population locale, où en majorité sont des Arabes iraniens, et qui ont toujours été pauvres. À l'époque de monarchie, gouvernement monarchique aussi, et ça continuait. C'est des gens qui vivent sur les puits de pétrole et gaz, qui sont à côté des complexes pétrochimiques ultramodernes, mais qui n'en profitent absolument pas, et toujours été dans la pauvreté. Et la révolte là-bas était massif, et la réponse a été tellement brutale qu'on a vu, il y a des vidéos qui montrent qu'ils ont utilisé des armes lourdes, ils ont utilisé des hélicoptères, ils ont utilisé des voitures de guerre carrément contre cette population.
Mais bon, on va revenir plus en détail sur la répression, qui est, d'après les journalistes qui commencent à connaître les images, ils disent que peut-être cette violence de la répression était inédite dans l'histoire du régime islamique.
À part les deux premières années de régime islamique où c'était la consolidation du régime, où ils ont écrasé dans le sang les révoltes en Kurdistan, au Turkmenistan, et il y avait des exécutions massives de militants de gauche et des laïcs. À part cette période où c'était vraiment une guerre civile, la continuation de la révolution de 79, mais ce régime, pour écraser les autres qui ont participé à ce gouvernement, a déployé une répression absolument incroyable à cette époque-là. L'Iran était vraiment dans le sang et tout le monde a été... Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de 30 000 morts dans cette période. Mis à part celle-là qui était la consolidation du régime, effectivement, cette répression et cette tuerie qu'on a en face de nous, c'est inédite. Et ils l'ont dit, et c'est exactement le même raisonnement qu'ils utilisaient au début 79, 81, 82. Et ils disaient, pour assouvoir le gouvernement du Dieu sur Terre, nous sommes libres de choses, tout ce qu'il faut. Et nous nous défendons par tous les moyens, c'est nous qui avons raison, et les autres, ils n'ont qu'à nous écouter. On reviendra dessus, ça a bouleversé les relations entre cet noyau de pouvoir, le guide suprême, même avec les Basiji, c'est la couche la plus populaire qu'ils ont organisée pour justement des moments comme ça. On viendra dessus, il y a une fracture entre cette partie qui vivent dans le même quartier des gens qui ont été écrasés, qui ont été exécutés, pourchassés, emprisonnés, parce que les chiffres commencent à venir. Eux-mêmes, le gouvernement parle de 2000 prisonniers. Ils disent qu'ils ont arrêté 2000 personnes. Eux-mêmes, ils disent qu'il y a des dizaines de morts, mais ce n'est pas nous, c'est les révoltés qui sont tirés sur eux-mêmes. Le ridicule ne tue pas, mais apparemment en Iran, ils commencent à tuer aussi. Mais les chiffres commencent à venir. On reçoit les noms, le prénom des gens avec tout leur CV. On sait qui sont. Et tous les jours, ça monte. Tous les jours, le nombre des victimes commence à monter. On parle maintenant de quelques centaines, mais on n'est pas surpris parce que répression, il faut le dire, a été brutale. C'était quelque chose que d'abord, il faut dire que la révolte a été très étendue.
Oui, justement, je voulais te demander par rapport à celle de l'hiver 2017-2018.
Oui, ça a été plus grand que ce qui était il y a un an et 10 mois. Et c'est une bonne nouvelle. D'après les statistiques du gouvernement de 31 provinces qui constituent administrativement l'Iran, il y avait des révoltes en 29. Il n'y a que deux provinces qui n'ont pas participé. Parmi et c'est une différence avec l'ancienne révolte de 2018. Et il y a autre chose qui est plus importante, c'est que dans les révoltes de 2018, c'était surtout des petites et moyennes villes, tandis qu'ici, il y avait des petites, des moyennes et des grandes villes. À Téhéran, d'après les statistiques du gouvernement, à 200 endroits, ça veut dire 200 quartiers de Téhéran, il y avait des mouvements de révolte. Et le premier qui a été touché, c'était Ispahan, la fameuse province avec la jolie ville touristique de Ispahan. Première province, c'était Ispahan. Après, c'était Téhéran. Et après, c'était une autre. Mais partout en Iran, quand on regarde le plan d'Iran, il n'y avait pas une région qui n'était pas épargnée. Et ça, c'est une grande différence avec ce qui était en 2018. Par contre, c'est les mêmes couches. C'est le même type de population qui s'est révoltée. Ce sont des déshérités, ce sont des gens ouvriers au chômage, ce sont ce qu'on appelle en Iran les gens sans avenir, les gens qui ne font que des travaux précaires, un mois par-ci, une semaine par-là. C'est vraiment des déshérités, ceux que le gouvernement islamique proclamait être leur gouvernement. Et ces gens-là, ces couches de la classe ouvrière, et vraiment des gens qui n'ont rien à perdre, qui ont participé et dans le mouvement de révolte de 2018 et dans 2019.
Mais justement, c'est pour ça que le régime aussi semble un petit peu, disons, inquiet. Et que cette violence est peut-être un reflet de cette inquiétude, parce que c'est sa base sociale qui bouge.
Tout à fait. C'est ça, c'est ce qui restait de sa base sociale. Parce que si tu te souviens, on en a parlé déjà dans 2018, d'après les sondages qui ont été faits par les centres universitaires proches du régime. Ça, je le souligne pour que les gens sachent, ce ne sont pas les gens d'opposition, des gens comme moi, qui ont organisé ces sondages pour savoir où est le régime vis-à-vis de la population. Et déjà, dans le sondage de 2018, ils avaient conclu qu'il n'y a que 14% de la population iranienne qui souhaite la continuation de ce régime. 14%. Et si on prend l'armée, les pasdaran, les basiji et les gens qui vivent avec ce gouvernement, qui sont des salariés de ce gouvernement, et dans les appareils répressifs et dans l'appareil d'État, 14%, et ça veut dire que c'est des gens qui font le régime. Et à part ça, 86% de population iranienne d'un degré différent ne souhaite pas vivre sous le régime islamique. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié maintenant aussi.
گردی از راهی نمیخیزد سواران را چه شد مردن از بیماران نامداران را چه شد جز صدای جاها چیزی نمی آید به گوش عمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد عمریان آخر کجا رفتن سواران را چه شد کرکتانشون قلب من گرفت بود بلان غلقا بلان کفتان هزاران را چه شد دور تا دور من از دشمن سیاهی میزند دوستان ما کجا رفتن یاران را چه شد قمریان قمریان آخر قمریان آخر کجا رفتن یاران را چه شد I quit.
Vous êtes toujours à l'écoute des fréquences Paris Pluriel 106.3. C'est une émission spéciale consacrée à l'Iran et Vérouz Farahani, qui est membre de l'association Solidarité Socialiste avec les travailleurs d'Iran, est avec nous. Il va nous dire qu'est-ce qu'on vient d'entendre.
Alors, d'habitude, quand je viens chez vous, je mets toujours une musique classique persane, mais ça, c'était une musique assez moderne, de pop iranienne, qui est très bon. Et c'est quelque chose qui est sorti avant les événements de 2018, qui parle de désarroi des gens et qui s'étonne pourquoi il n'y a pas des cavaliers qui bougent, pourquoi il n'y a pas des gens qui bougent. Eh bien, la réponse est là. Avec le 2018 et 2019, il faut dire à ce brave chanteur et son équipe que les gens ont bien répondu présent. Et les Iraniens, en règle générale, ils répondent présent.
D'accord. Alors, si on revient un petit peu à la situation, souvent les régimes se cachent sur les sanctions américaines, qui effectivement, depuis mai 2018, ont asphyxié l'économie iranienne. Mais le rétablissement des sanctions ne suffit pas à expliquer la situation économique et sociale, et le taux de chômage, les inégalités. Et comment ça fonctionne, l'économie du régime iranien ?
Très bonne question, parce que effectivement, le régime se cache derrière les sanctions américaines. Les sanctions américaines ont aggravé la situation. Mais cette situation n'est que le résultat de 3 décennies des politiques néolibérales le plus classiques. Les privatisations, les attaques au niveau de vie des gens, abaissement de ses salaires, fermeture des usines non rentables et ainsi de suite. Tout est classique, vraiment classique. Je pense que je l'ai déjà dit, mais en 2010... quand M. Strauss-Kahn était président du Fonds monétaire international, il avait désigné M. Ahmadinejad, attention, M. le populiste, soi-disant M. Ahmadinejad, comme meilleur élève du Fonds monétaire international dans la région. Et c'était la même chose qu'il avait dit de Ben Ali en Tunisie. Et on avait dit, on espère que c'est le baiser de Judas concernant M. Ahmadinejad qui était le cas aussi. Pour dire que depuis la fin de la guerre contre l'Irak, avec M. Rafsanjani, qui était le premier président, et c'est lui qui a fait roi M. Khamenei, et il s'est mordu les doigts. Après, il a dit que j'ai fait 2 erreurs, laisser entrer les Pasdaran dans l'économie et avoir désigné, proposé Khamenei, parce qu'il ne voulait pas, il est devenu guide suprême à reculons. Mais M. Rafsanjani ne comprend pas la puissance de l'appareil d'État et il ne comprend pas que même une balai, si vous le mettez en guide suprême en Iran, il a une puissance incroyable qu'on ne peut pas contrôler. Il l'a payé de sa vie parce que vous savez qu'il est mort l'année dernière. Tout le monde pense qu'il a fait se suicider dans la fameuse piscine qui a beaucoup d'histoires. Pour dire, depuis M. Rafsanjani, après M. Khatami le réformateur, qui était entouré des économistes de l'école de Chicago. Là, nous avons le pire espèce des économistes.
Mais c'est celles qui font l'épreuve en 73.
Exactement. Et
en Chili.
Malheureusement, 2 parmi eux ont été formés à Sorbonne en France. Ce sont des Friedmaniens acharnés. Vraiment, quand on parle avec eux, pour eux, les gens n'existent pas. Là, il y a le macroéconomie, il faut serrer, il faut, même si Trump s'est serré, il faut encore serrer. C'est ce qui s'est passé en Iran. Toutes les politiques, ça ne veut pas dire qu'en Iran, l'État ne joue pas un rôle énorme. Étant donné que le monopole de 2 choses, monopole de pétrole et monopole de devises reste dans les mains de l'État, la première puissance économique du pays, c'est l'État. Et le plus gros patron au nombre de salariés en Iran, c'est toujours l'État. Mais la ligne d'économie, ligne économique suivie par les gouvernements successifs en Iran, de Rafsanjani jusqu'à aujourd'hui, c'était néolibéral. Et à chaque fois, ils ont appliqué avec zèle les politiques qu'on a fait ces preuves, entre guillemets, en Chili, on voit le résultat. En Argentine, on voit le résultat. Équateur, on voit le résultat. Partout. Mais au Liban, même en Irak, on le voit. Ça veut dire qu'il faut... Il faut comprendre que dans les pays comme l'Iran, avec le monopole de pétrole, qu'ils essayent de temps en temps, parce qu'à l'époque de M. Khatami, le soi-disant réformateur, hein, on a parlé de privatiser même le pétrole. Et ça, c'est quelque chose que ça va changer le rapport de force. Ça va nous amener vers République Azerbaïdjan. Ça veut dire qu'à la place de l'État, on aura une oligarchie pétrolifère qui va écraser tout le monde. On aura la mafia, on aura tout ce que vous voulez. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose à défendre. et ça, mis à part. Mais quand vous prenez les spécificités du pays et vous les mettez à côté des politiques qui ont été menées par le gouvernement, c'est un pays gouverné par les politiques néolibérales. Mais dans le cas des spécifiques du régime islamique, malgré la prépondérance de l'État et le contrôle de devises qu'ils ont. Par contre, pour dire comment ils s'en foutent royalement du niveau de vie des gens et ils se sentaient tellement puissants qu'ils pensaient qu'ils pouvaient imposer un triplement de prix de carburant pour les particuliers. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, excusez-moi, en Iran, la voiture personnelle joue un rôle énorme. Les moyens de transport public sont très très limités, malgré le fait qu'ils ont fait des lignes de métro et il y a des bus. Mais dans une mégapole comme Téhéran, qui est 12 millions d'habitants, c'est Île-de-France à lui tout seul, le rôle de transport personnel, c'est important. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à joindre le debout en fin de mois. Ils ont un travail, mais ils font taxi. Ils font taxi à Téhéran aussi. Tous ces gens-là sont impactés et les chiffres, c'est par millions. C'est ce que je vous dis que les gens, même il y a des enseignants qui enseignent et après, ils font taxi pour gagner un peu de sous. Ça, c'est quelque chose qui touchait vraiment la partie le plus fragile de la population iranienne et ils pensaient qu'ils pouvaient le faire. Il y en a toutes. Vous savez, ce qu'ils économisent avec cette machin, c'est 3,2 milliards de dollars. Les économistes, ils ont calculé, ils pouvaient le faire avec 10% d'augmentation sur les cigarettes. Ils pouvaient le faire en supprimant, un tiers de ce budget pouvait être économisé juste en supprimant la part de budget de l'État qui est accordée aux outils de propagande, à des mollahs de coin qui sont payés par le gouvernement pour dire des âneries, pour propager n'importe quelle histoire religieuse farfeluse et des choses qu'on ne comprend absolument pas d'où ça sort. Mais ces gens-là sont payés par l'État parce que c'est un État idéologique et qui ne vit que de ça. Et il y a une armée des mollahs, des petits et des grands. Et ça coûte, dans le budget de 2018 en Iran, ça coûtait 400 millions de dollars. Ça veut dire un quatrième de ceux qui pouvaient économiser pour le pays. Mais, donc, la question, pourquoi ils sont allés pour cette augmentation? Parce qu'ils pensaient qu'ils peuvent tout contrôler, que les gens, ils ne vont rien faire. C'était le plus facile, parce que ça aussi, c'est le monopole de l'État. Et ils pouvaient, et en plus, une fois que la révolte, parce que tu l'as bien dit, qu'ils ont dit, on a fait ça pour avoir du budget pour aider les déshérités. Foutaise! Parce que ça, ils l'ont dit après la révolte. Ils ne l'ont pas dit avant. Ils n'ont pas dit, attention, monsieur, dame, on est obligé de monter le prix de pétrole parce que nous avons besoin de budget pour votre bien-être. Donc, préparez-vous. Ils ne sont pas allés en étape. C'est un argument qui est sorti après coup. Donc, ça veut dire que tout le monde a rigolé. Et en plus, c'est une bonne chose, c'est que ça a montré le hypocrisie du gouvernement de Rouhani, qui se prétend réformateur, civique, laïque, machin, compagnie. Mais vraiment, c'est des pires espèces cyniques, c'est des hypocrites à l'extrême dans le politique, où cette espèce, on ne le voit pas beaucoup. Et ça confirme la mort de l'influence de discours des réformateurs d'État de type Khatami, Rafsanjani et Rouhani dans cette couche de population. Et ce qu'on s'est dit quand on écoutait la musique, il faut voir une continuité entre les révoltes de 2018 et 2019 dans le type des gens qui ont participé, la position de classe de ces gens-là. C'est des ouvriers déshérités qui ont participé, les couches déshéritées de ceux qui, on pouvait dire, ancienne classe sociale, parce que les prolétarisations de ces couches, ça a été accéléré avec cette politique néolibérale. Nous avons énormément de couches inférieures des classes moyennes qui ont jeté vraiment, non seulement dans le prolétariat, non seulement dans la classe ouvrière, mais carrément à côté de la production. C'est des gens qui n'ont aucun avenir. C'est des gens, c'est pour ça que ce mot est sorti dans le discours sociologique iranien. Maintenant, on parle des gens sans avenir. Les gens sans avenir, c'est des gens qui sont même parfois diplômés et archi-diplômés, mais il n'y a aucun débouché, il n'y a rien pour eux. Ils n'ont aucun avenir dans la République islamique d'Iran. Et ça, c'était quelque chose qui était dans 2018, répété en 2019. Et il y a une coupure de classe en Iran qui s'est produite aussi. On revient un peu en arrière. quand il y avait la fraude électorale de M. Ahmadinejad contre M. Moussavi, il y avait un énorme mouvement civil qui s'est lancé, qui délibérément se limitait dans le cadre de République islamique, qui pesait de tout son poids pour faire gagner une faction du gouvernement contre l'autre, qui voulait faire gagner M. Moussavi et Karoubi, qui étaient les candidats malheureux, dans cette fraude massive électorale qui s'est avérée d'être une fraude. Mais il se limitait dans le cadre de République islamique et on ne voyait aucun slogan, aucune demande en dehors du cadre de République islamique. Ça, c'était l'apogée de discours, de triomphe de discours des réformateurs d'État qui voulaient dire « faites-nous confiance, on change du haut, restez calme, révolution c'est terminé, révolte c'est terminé, faites-nous confiance, votez et on viendra, on changera tout ce que vous voulez ». Alors. On a vu qu'est-ce qu'il a donné. Rien, zéro pointé. Rien n'a changé, ni politiquement, ni économiquement, ni socialement. Mouvement de 2018, c'était le début de fin de ce discours. Mouvement de 2019, c'est la fin complète de ce discours, surtout avec les positions tenues par des personnalités de ce mouvement réformateur qui sont honteuses, il faut le dire. Et dans 2018, M. Tajzadeh, M. Abdi, qui sont des noms très connus pour les gens qui suivent l'Iran, des figures intellectuelles de mouvements réformateurs d'État qui avaient condamné la révolte de 2018. Aujourd'hui, ministre de culture de M. Khatami, M. Atollah Mohajerani, c'est vraiment honte à lui, il faut le dire, qui s'est érigé en défenseur de l'État islamique, devant cette révolte, il a condamné avec le mot le plus dur possible la révolte des déshérités dans ce pays. Donc ça veut dire que discours réformateur est mort, enterré pour toujours.
Quand on s'est rencontré au moment où les États-Unis faisaient planer la menace d'une intervention, tu évoquais la difficulté dans laquelle s'est trouvé le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux en Iran parce qu'il était pris entre c'est-à-dire la troisième voie éventuelle, c'est-à-dire on est contre l'intervention, mais on est contre le régime. Et surtout, tu évoquais que le régime, dans cette situation, ne pouvait que renforcer le contrôle social, ne pouvait que renforcer justement la répression. Aujourd'hui, on voit que c'est effectivement ça ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu peux nous parler aussi l'année, 10 mois qui vient s'écouler, comment la répression s'est exercée déjà sur le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier n'a pas arrêté. Il y a eu déjà effectivement la manifestation du 1er mai, mais en août dernier, il y avait, je crois que c'est les... Bon, je ne me souviens pas, c'est les ouvriers des industries, des transports lourds à Arak.
Tout à fait, Arak, Avaz, et les sucreries et le transport de terre.
Et pour des revendications, des salaires qui ne s'étaient pas payés, et la répression vis-à-vis de ces ouvriers qui ont manifesté, des syndicalistes, même des journalistes, a été extrême.
Est-ce que tu peux nous... C'était féroce. Et c'était, vous savez, la répression en Iran, c'est très moderne. S'il y a une partie de l'appareil d'État en Iran qui s'est bien modernisé, c'est le pays totalitaire. C'est un pays, il faut toujours le dire, et capitaliste et théocratique. Ils ont les deux côtés en même temps. La répression est multicouche. Ils ont des niveaux. Et au niveau des personnalités de mouvements ouvriers qui sont connus, c'est du harcèlement. Ils les arrêtent un moment, ils les libèrent sous des cautions énormes pour qu'ils ferment leur gueule, qu'ils ne puissent pas parler sous peine, sous menace. Parce que vous savez, par exemple, quand Reza Shahabi ou Ali Nejati est arrêté, c'est des figures de mouvements ouvriers en Iran qui sont arrêtés un mois, deux mois après, ils sont libérés sous le caution. C'est des gens c'est leurs amis qui amènent leur fiche de paye, qui amènent leur, disons, acte de j'ai oublié le nom, acte de leur d'appartement qu'ils ont pour caution. Ça veut dire, après, s'ils ne respectent pas les limites qui sont fixées par ces cautions, les cautions sautent. Ça veut dire, les gens, ils perdent leur salaire, ils sont confisqués, ils perdent leur appartement parce qu'ils ont amené l'acte de propriété. Voilà, je trouvais le mot, l'acte de propriété de leur maison et tout. Mais c'est quand même un mouvement de chat et souris. parce qu'eux aussi, ils trouvent un moyen de parler. On voit que... Mais autre chose qui est important, quand il y a un mouvement de masse, ce type de répression ne marche pas. Ce type de répression affecte les activités des gens qui sont connus, les activités des militants du mouvement ouvrier. Mais quand vous avez un problème énorme social comme en Iran, le mouvement continue. Et d'ailleurs, entre la révolte de 2018 et la révolte de maintenant, on a la multiplication des protestations ouvriers. On avait 3,5 mouvements par jour en Iran. Il y avait dans l'industrie de Lourdes, il y avait dans les enseignants, il y avait les étudiants, il y avait dans tous les secteurs de l'industrie et de services, nous avons des mouvements de protestation. Et la chose la plus importante, plus ces mouvements continuent, plus on voit une sorte de convergence. Et d'ailleurs, cette convergence, il s'est vérifié maintenant. Pour vous dire, depuis que la répression a été exercée contre cette révolte, nous avons le syndicat des sucreries de Haftapeh, nous avons le syndicat de transport public de Wahed à Téhéran, nous avons les associations des écrivains iraniens, nous avons l'association des enseignants qui sont très puissants en Iran, qui sont le mieux organisés et qui ont fait des actes. Déjà, ils sont des gens très braves, ceux qui il faut saluer leur continuation, leur courage et leur sens d'organisation qui dépasse de loin les autres. Tous ces associations, tous ces syndicats ont condamné cette répression ouvertement. Et ils ont apporté leur soutien aux victimes, des familles des victimes, et ils ont demandé la libération immédiate de tous les gens qui ont été arrêtés. Cela veut dire que malgré cette répression féroce qu'on constate, malgré des dizaines et des centaines de morts, malgré des milliers d'arrestations qui sont même vérifiées par les statistiques officielles du gouvernement, les gens qui sont connus n'ont pas peur d'apporter leur soutien à ce mouvement. Ça montre l'authenticité de ce mouvement. Ça montre que ce mouvement est bien enraciné dans la société iranienne. Ça montre que les forces qui ont participé activement à cette révolte, et les enseignants, et les écrivains protestateurs, et les syndicalistes, ils parlent tous de même chose et ils sont dans le même camp. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je reviens sur ce qu'on a commencé à dire, ça veut dire comparer le mouvement contre l'élection de M. Ahmadinejad avec ces deux mouvements. Et on voit que dans le premier, ça veut dire le mouvement politique qui se limitait délibérément au cadre de République islamique, c'était le centre-ville vers le quartier chic qui était actif. Les pauvres n'ont pas bougé dans ce mouvement, malgré le fait que c'était des demandes complètement légitimes. Mais il y a toujours eu une coupure, on l'a déjà souligné, entre le mouvement social revendicatif et les protestations politiques et ceux qui demandent, qui vont pour les libertés civiques et politiques en Iran. Et à l'époque de mouvement contre la fraude électorale, le leadership de ce mouvement, M. Moussavi et Karoubi, délibérément ont gardé cette distance. Ils n'ont jamais appelé l'autre partie du mouvement de population à participer. Ils n'ont jamais réclamé leurs revendications comme le leur. Et par contre, maintenant, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Mais par contre, il faut souligner le mouvement de 2018 et le mouvement de 2019, c'était centre-ville vers le bas-fond des villes. Et ça vérifie. Il y a une coupure entre les couches aisées en Iran, entre les couches moyennes aisées et les couches vraiment aisées, le fameux 1%. Au fait, il faut dire qu'il y a 1% comme partout, qui accapare tout, mais il y a 5-6% autour qui en profitent. Ces gens-là n'ont pas bougé ni en 2018, ni en 2019.
Mais quand je t'ai parlé de la répression ces derniers temps, c'est parce qu'ici, on a pris connaissance que des personnes connues, des manifestants, ont eu des peines, des prisons lourdes, et 14 ans, 16 ans, et qui, bon, à peu près, je crois que c'est 7 ans d'après la loi à réaliser, et aussi des châtiments corporaux. Effectivement, ça, c'est quand même une chose, parce que nos éditeurs, ils prennent conscience qu'en Iran, il y a le délit d'opinion, mais il y a le délit d'association aussi.
Bien sûr. Vous savez que d'avoir des associations indépendantes dans le mouvement ouvrier ou dans les enseignements ou dans les universités, c'est interdit en Iran. L'Iran, c'est peut-être le seul pays au monde, je n'ai pas vérifié, mais dans la région, c'est le seul pays où dans le code de travail, on limite l'organisation les organisations possibles pour les ouvriers et les employés. Et soit ça doit être le conseil du travail islamique, soit la maison des travailleurs, qui sont les deux, sont un féodé, un régime, ils sont pas du tout indépendants. C'est un délit en Iran de tenter d'établir une organisation indépendante, un syndicat indépendant. C'est pour cela que les activistes iraniens sont pourchassés, qui passent leur vie entre prison et la vie normale. C'est bien souligné. Et c'est quelque chose qui est, disons, codifié en Iran. Et c'est pour ça qu'il faut changer cette loi. C'est pour ça que, même si c'est une revendication, disons, de type syndicaliste en Iran, étant donné qu'il vise le changement d'une loi, c'est un acte politique. Ça, c'est très important à souligner. La demande d'établissement des organisations ouvrières vise à changer une loi nationale qui est dans le code de travail en Iran. Donc, c'est un acte politique. Et politique et économique en Iran sont vraiment organiquement liés. Et vu que vous avez un régime en plus qui est théocratique et islamique et capitaliste en même temps, et ça aussi amplifie cet aspect que tout mouvement en Iran devient très rapidement politique. 2018 l'a vérifié, 2019 l'a confirmé.
Alors, mais je reste toujours sur la répression, parce que les nombres des personnes qui ont été arrêtées, on ne les sait pas. Et bon, il y a des chiffres d'Amnesty International qui vont jusqu'à 4000 personnes.
Il faut saluer le travail d'Amnesty International, je reviendrai dessus. C'est vraiment, il faut saluer ces gens-là. Ils font un travail magnifique sur tous les pays. En ce qui concerne l'Iran, qu'on peut vérifier ce qu'ils disent, ils font un travail scientifique vraiment de premier plan.
Et mais justement, l'essor de ces personnes, d'un côté inconnues, il reste aussi inconnu. Et par exemple, dans des journaux, un journal ultra-conservateur est proposé de pendre les suspects en disant, je les cite, « Nous avons arrêté tous les larbins et mercenaires et ils ont avoué clairement qu'ils avaient agi au service de l'Amérique. »
Tout à fait. Ben, disons que, déjà, pour revenir à la question précédente que tu avais posée, on n'a pas répondu à 100%, c'est qu'en aucun cas, ni en 2018, janvier 2018, ni en novembre 2019, on n'a pas entendu, comme ce qu'on entend parfois à Hong Kong, « Amérique, aide-nous ». Pas du tout. Pas un mot, pas un appel à des pouvoirs étrangers. C'est un point très positif qu'il faut souligner. Les révoltés en Iran n'ont pas besoin de M. Trump. Les révoltés en Iran demandent que M. Trump enlève les sanctions, parce que, comme on peut le vérifier, c'est des gens qui meurent, c'est des bébés qui meurent, c'est des gens qui n'ont pas accès aux médicaments et tout. Donc partout, les sanctions américaines, déjà, il fait gagner énormément d'argent à des gens qui contrôlent le circuit de trafic de tous les denrées nécessaires. En Iran, c'est, en premier chef, c'est les Pasdaran, c'est les gardiens de la révolution qui contrôlent tout ça. Ils ont leur propre port privé, ils ont le circuit de distribution. C'est un État dans l'État. Et il était vérifié à l'époque d'Obama. La fortune personnelle de M. Khamenei, guide suprême, et son entourage avait augmenté de 30%. Pendant les sanctions. Donc, sanctions, c'est vraiment une aberration. C'est pour ça que tous les épris de liberté, tous les gens qui sont pour la justice sociale, partout dans le monde, ils sont contre les sanctions contre leur propre peuple, avec une seule exception qui confirme la règle, c'était l'apartheid, parce que les révolutionnaires anti-apartheid disaient que, de toute façon, le commerce avec les Blancs ne profite qu'aux Blancs et pas à la majorité qui sont des Noirs. C'était justifié. Mais en Iran, ce n'est pas comme ça. Dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Sanctionner un pays comme l'Iran, c'est un crime contre le peuple. Et quand vous voyez, pas, je répète, pas un seul slogan en faveur d'Amérique, en faveur d'Israël, en faveur des pays comme ça, que le régime prétend d'être contre, mais on peut en discuter beaucoup. Les négociations continuent, on connaît le dessous de cette histoire, mais le point positif, c'est que, comme tu l'as souligné, c'est vraiment la troisième voie. C'est la voie qui dit « nous ne voulons pas de République islamique, nous ne voulons pas d'ingérence étrangère ». Et ça, c'est vérifié en janvier 2018 et en 2019, et c'est un point très positif à souligner. C'est un mouvement revendicatif qui Partout, ils ont dit, nous voulons pas de la République islamique. Il y avait le slogan de mort à Khamenei, mort à toutes les figures connues dans ce pays. Et comme tu l'as souligné, la réponse à cette révolte, ça a été d'une brutalité que même les gens ont été choqués. Ils ont fait amener un soi-disant religieux qui donnait sa propre conception des sourates et des versets de Coran, et qui, en citant comme les Daesh, exactement comme Daesh, où Daesh il va trouver un verset qui dit que dans une guerre, quand vous gagnez, les femmes sont à vous, et vous pouvez l'utiliser comme de l'esclave sexuel. Ça, c'est exactement la même chose. Il a sorti deux ou trois versets, et en disant, ce sont des gens qui ont pris l'arme, d'ailleurs, ils étaient désarmés, mais bon, qui ont pris l'arme, qui ont révolté contre le pouvoir d'État, donc il ne faut pas le simplement tuer, mais il faut le torturer à mort. Et il a sorti deux ou trois versets, on ne sait pas où, en disant que ces gens-là qui ont emprisonné ne méritent pas d'être emprisonnés. Il faut les pendre et il faut les tuer en le faisant souffrir au maximum. Et il a même donné la recette. Il faut couper la main gauche et la jambe droite et il faut les laisser mourir comme ça. On a un régime. Et ça, c'est dans la télévision nationale iranienne. Ce n'est pas un truc sur le réseau social, un tweet ou quelque chose. Non, ce type de Daesh, il faut le dire, c'est vraiment type de Daesh. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il était invité dans une émission nationale de la première chaîne de la télévision nationale iranienne pour donner la recette de torture, la recette d'en finir avec ces révoltés qui ont osé mettre en cause le pouvoir d'État, le pouvoir de Dieu en Iran.
Mais justement, il y a aussi, tu parles de la télévision est revenue avec une de ses tactiques, que c'est les aveux. Télévisé, mais est-ce qu'on peut souligner que dernièrement, au moment
pour l'instant, il n'y a pas eu. Hein. On a entendu le bruit, mais il n'y a pas eu.
Ah, d'accord.
Mais il n'y a pas eu parce que même entre eux, il y a débat.
D'accord.
Même entre eux, il y a débat. Il y a les réformateurs qui disent arrêtez, pas ça, s'il vous plaît, machin compagnie, mais on ne sait pas qu'est-ce
que ça veut. Parce que Courrier International a répercuté un article où il disait qu'effectivement, il y avait lieu un cas, et c'est une femme, et que c'est ça, par contre, c'était nouveau.
Non, ce n'est pas nouveau.
Non, que ce soit les femmes qui sont montrées.
Ah oui. Alors là, parce que, à juste titre, les rôles des femmes dans ces révoltes, il est beaucoup plus prépondérant et important que même en janvier 2018. Les femmes, ils étaient en première ligne. Et ils ont montré encore une fois que les femmes en Iran, déjà c'est débattante, qui n'en veulent pas de ce régime islamique et qui sont là, pas que pour les demandes de mouvances féministes, pas que pour liberté de s'habiller comme il veut, contre le hijab, contre le foulard. Ils étaient là pour des revendications sociales. Ils étaient là avec tout le monde pour défendre leur niveau de vie, pour dire non à la République islamique dans sa totalité. Et ça, c'est très, très important. Ça se vérifie. Déjà, dans 2018, il y avait beaucoup de militantes femmes qui ont été arrêtées. Et en 2019, c'est démultiplié. Ça veut dire, il faut le souligner aussi. Regardez, malgré la répression multicouche, multifonctionne, malgré le harcèlement des militants, malgré tout l'arsenal répressif qu'ils utilisent, le mouvement de revendication sociale a continué en Iran et cette révolte, c'est simplement la partie la plus évidente de revendication politique qui relaie, qui démontre les demandes de ce mouvement social.
لا مانع حمل كبير
Vous êtes toujours à l'écoute des fréquences Paris Pluriel au 106.3. C'est une émission spéciale consacrée à la situation en Iran. Et Behrouz Farahani, qui est membre de l'association Solidarité Socialiste avec les travailleurs en Iran, est avec nous. Il va nous dire vraiment ce qu'on a entendu.
La musique. Bon, désolé, oui, la musique. Bon, c'est pas une musique iranienne, c'est une musique plutôt africaine. Mais il faut dire qu'il y a quand même. Dans le sud de l'Iran, la population arabe iranienne qui ont une musique qui ressemble à cette musique-là. L'Iran, c'est un pays multinational. Il y a des Perses, des Turcs, des Kurdes, des Baloutches, des Turkmènes, des Arabes qui vivent en toute harmonie d'ailleurs. Et malgré toutes les tentatives, ça c'est important à dire aussi, toutes les tentatives menées par les Américains, par l'Arabie saoudite, par d'autres forces qui sont contre le régime islamique, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait en Syrie et ce qu'ils essayent de faire partout. Ça veut dire de provoquer les minorités ethniques et nationales pour se révolter avec leurs propres revendications en coupure avec les autres. En Iran, par exemple, c'est très important à souligner, le mouvement ouvrier moderne qui est né il y a une dizaine d'années, le rôle des syndicalistes kurdes a été prépondérant et le mouvement ouvrier en Kurdistan n'a jamais revendiqué quelque chose à part les autres parties du mouvement ouvrier en Iran et c'est un point très positif. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié encore dans ce mouvement aussi parce que contrairement à janvier 2018, cette fois-ci, parce que janvier 2018, je rappelle, en Kurdistan et dans l'Azerbaïdjan, le mouvement n'était pas tellement profond. Il y en avait, mais ce n'était pas rien à voir avec aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans ce mouvement de novembre 2019, ils ont bougé énormément, mais avec les mêmes revendications, avec les mêmes slogans généraux qui concernent tout l'Iran. Et ça, c'est un point encore positif qui montre que la troisième voie en Iran dit non à la République islamique, non aux ingérences des pays étrangers, en premier chef les États-Unis d'Amérique, qu'on n'en voit pas, et surtout qu'ils ont souligné la convergence des luttes, ils ont souligné que le slogan de tous les partis du mouvement ouvrier, toutes les déshérités en Iran, c'est la même chose et ça c'est très important à souligner.
Alors si le régime a des soucis à se faire parce qu'à la situation sociale expressive qui ont bien de parler, il faut ajouter les mobilisations contre les corruptions de la classe politique et les ingérences iraniennes en Irak et au Liban. En Irak, on a entendu des slogans, des soutiens aux Iraniens qui étaient en révolte.
Et il y a des bonnes nouvelles, ça arrive de partout maintenant. Ça veut dire que le régime islamique, ça je l'avais souligné quand on s'est vu la dernière fois ici, et quand vous le regardez de l'extérieur, étant donné qu'ils ont eu quelques victoires diplomatiques et ils ont une industrie d'armement qui est à part dans les pays qui leur donne une puissance certaine, qu'on n'est pas contre hein, au niveau de ce qui est défensif, personne ne peut dire qu'il ne faut pas le faire. Vu l'hostilité des États-Unis d'Amérique et Israël, il faut toujours être critique pour critique, ça ne veut rien dire. Ça, on reviendra après, peut-être une fois, sur la politique de défense de République islamique. Ça, c'est quelque chose à part. Mais partout, ces gens-là, ils ont mis leurs pions et ils ont organisé des gens, des pires espèces de gens, des mercenaires, et en leur service. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que Hashd al-Shaabi, qui est payé par l'Iran et qui a joué un rôle en Syrie, qui joue un rôle en Irak, ben, il tire sur les manifestants. Qu'est-ce qu'on constate au Liban? Que l'aura de Hezbollah est en train de complètement s'évaporer avec la position qu'ils ont prise contre la contestation sociale dans ce pays, au Liban. Ça veut dire que la défense, la force de résistance qui présente à juste titre Hezbollah au Liban contre Israël, qui leur donne une popularité et qui dépasse largement le clivage sunni-chiite chrétien au Liban, à juste titre, parce qu'ils ont joué un rôle important. Quand il y a une question sociale, quand il y a les revendications sociales et politiques des gens, on voit que ces gens-là, ils sont dans la cante de réaction. Et partout, c'est ça. Même les Houthis, ils sont comme ça au Yémen. Donc ça, on est en train de voir qu'en Irak, que le consulat de Karbala, ville sainte des chiites, consulat de Najaf, ville sainte des chiites, a été attaqué et mis à feu. Et à Najaf, deux fois. Ils ont encore fait une fois. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle et pour les Irakiens et pour les Iraniens. Parce qu'il faut le souligner, République islamique d'Iran ne soutient que les réactionnaires, que les gens qui sont dans le camp des capitalistes, que les gens qui sont dans le camp des puissants dans tous ces pays-là. Aucun. Regardez Palestine. Quelle faction a profité des largesses de gouvernement iranien ? De Khomeini jusqu'à maintenant. Khomeini n'a donné même pas un dollar à Yasser Arafat. Ils n'ont jamais soutenu les factions laïques. Ils ont créé leur mouvance djihad islamique, payée par l'Iran, pour faire quoi ? Pour propager une idéologie islamique de clivage religieux entre les résistants palestiniens. Maintenant, avec les chauves-souris, avec Hamas. Hamas, ce n'est pas la même branche que les républiques islamiques. Parfois, ils vont vers l'Arabie saoudite, et parfois, ils vont vers la Turquie, et parfois, ils vont vers l'Iran. Mais en aucun moment, la République islamique d'Iran n'a soutenu les factions laïques dans le mouvement palestinien. Vous n'entendez pas un mot sur les prisonniers non musulmans palestiniens en Iran. Partout, quand ils parlent, il faut libérer les prisonniers, vous avez l'adjectif musulman qui vient avec. Et comme si les autres n'existent pas. Comme s'il n'y en a pas dans le mouvement de résistance palestinienne autre chose que les musulmans. Ça, c'est quelque chose à souligner 10 fois, parce que le régime islamique, en mettant les kéfiers palestiniens autour de coups, des passes d'Aaron, en faisant des discours de pro-palestiniens, machin compagnie, ils se présentent comme les défenseurs de peuple palestinien. Mais en aucun cas, ils sont défenseurs de leurs mercenaires dans ce pays, dans les territoires occupés. Ils n'ont jamais, ça il faut le dire, je mets au défi quiconque qui peut dire que je suis en train de dire une contre-vérité. Ils n'ont jamais aidé des gens comme Georges Habash. Ils n'ont jamais aidé des laïcs. Ils ont toujours encourager les clivages religieux. Ils étaient pour vraiment désorganiser la résistance en Palestine et ils ont joué un rôle néfaste. Et là, maintenant, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont, qui sont vraiment au sommet depuis toutes ces années-là. Et surtout en Irak. Quand vous regardez le niveau de corruption en Irak, c'est comparable avec l'Iran. J'ai entendu un chiffre, parce que vous savez que pendant le règne de soi-disant anti-impérialiste M. Ahmadinejad, 700 milliards de dollars de revenus pétrolifères en Iran se sont évaporés. On ne sait pas où ils sont allés. 700 milliards de dollars. C'est quelque chose comme 40 années de revenus pétroliers en Iran. Ils en ont profité de ce boom de prix de pétrole qui avait dépassé le 100 dollars le baril. On ne sait même pas où ils sont allés. On n'en a pas de traces. Ils ont acheté des plateformes flottantes qui n'ont jamais été livrées, mais qui ont été payées pendant le gouvernement Ahmadinejad. Le gouvernement Ahmadinejad, c'était le plus corrompu, le plus répressif de tous ces gouvernements, pour dire à des gens, parfois malheureusement dans le mouvement de gauche même, qui ont un petit peu, je ne sais pas, parce qu'ils regardent que le phraséologie anti-impérialiste, mais creusent à 100%, il n'y a rien derrière, et ils pensent que des types Ahmadinejad, c'est peut-être une sorte de, je ne sais pas moi, théologie de la libération comparable avec l'Amérique latine, qui est une foutaise. Il faut le toujours dire, il n'y a rien d'anti-impérialiste, et d'ailleurs, ça c'est vérifié avec ce qui se passe en Iran. Ahmadinejad, il n'a même pas dit un mot. Hein. Il ferme sa gueule, et même Mousavi et Karoubi, qui sont assignés à la résidence, ils ont quand même condamné cette tuerie et cette répression. Mais Ahmadinejad, il cherche ce trou de souris.
Alors, je pense qu'il nous reste 3 minutes, mais je pense qu'il faudrait justement comment cette politique interventionniste de l'Iran a joué dans la maturation du mouvement ouvrier. Quelles sont les réactions et vis-à-vis de l'intervention en Syrie notamment et en Irak?
Ça toujours, les gens en Iran ont toujours dit, quand nous sommes en train de mourir de faim, on n'a pas un dollar à dépenser ailleurs. Ça a été partout, ça a été scandé dans le mouvement 88, 2018 et 2019. On n'en a rien à foutre. Quand nous, on est en train de mourir de faim, on n'en a rien à foutre. Mais il y a une chose, il me reste 2 minutes pour le dire. Vous savez que ce gouvernement se prétendait d'être gouvernement de déshérités, Mostaz Afan en persan, en arabe persan. Et M. Khamenei vient de donner une définition nouvelle du mot déshérité. Pourquoi ? Ça, c'est très important, parce qu'il semble que dans les rangs des Basiji de base, qui vivent dans le même quartier que ces gens qui ont tiré dessus, il y a, le message n'est pas passé. On entend des nouvelles que les Basiji de base n'ont pas accepté cette répression. Ils sont choqués. Ils sont dans un état de choc social. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quand vous voyez que Khamenei vient de définir une nouvelle définition pour déshérité, il dit que jusqu'ici, on disait déshérité, c'est quelqu'un qui ne mange pas à sa femme, qui est dans les couches populaires, machin. C'est faux. C'est faux. Déshérité, ce sont les imams. Les hérités, ce sont des leaders de mouvements islamiques. Les déshérités, les mostazafans, c'est nous. Et quand on dit Basij et mostazafans, ça veut dire les Basiji qui défendent les déshérités, ça veut dire que vous devez être à notre service, pas aux déshérités dans le sens jusqu'ici. Ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on a eu une mauvaise définition de déshérités que M. Khamenei est en train de clarifier. C'est un signal. À mon avis, il faut le mettre, il faut le suivre. Il y a une coupure entre le gouvernement et cette partie de couche de répression.
Il reste un demi-minute, certainement. C'est de quelle façon la solidarité en France peut s'exprimer vis-à-vis de cette révolte en Iran ?
Propager les nouvelles, exprimer la solidarité, comme il l'a fait le collectif des syndicats pour la défense des travailleurs en Iran, CGT, CFTT, les cinq syndicats. Ils ont issu un communiqué très fort, ils ont condamné cette théorie, ils ont défendu leurs revendications justes de mouvements populaires en Iran. C'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument apporter le soutien. Il faut mettre la pression, comme Amnesty International, il faut mettre la pression sur l'Iran. Il ne faut pas penser que c'est un gouvernement qui n'écoute pas. Mais cette pression est importante. Exprimer partout la solidarité avec cette révolte.
Merci beaucoup, Behrouz Farahani, de nous avoir parlé de la situation en Iran. Et je rappelle que tu es membre de l'association Solidarité Socialiste avec les travailleurs en Iran et que c'était une émission spéciale consacrée à la situation en Iran.
Merci beaucoup.
Jeudi 12 décembre, l'Éternel Solidaire et Radio FPP. Vous invite à un apéro émission spéciale en public et en direct sur 106.3 FM. À partir de 19h et jusqu'à 20h30, entre débat et performance, l'univers carcéral vous ouvre ses portes.
L'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonce. Mon ciel est ouvert.
Rendez-vous au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, quartier Danube.
Parti, mon esprit glisse ailleurs. Auprès du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière.